Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 15 juin. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer les titres, dans un instant, le journal de la Coupe du Monde. En République démocratique du Congo, ultimatum du comité laïque de coordination au président Joseph Kabila, à son gouvernement et à la CENI. Au Tchad, interpellation d'un gouverneur limogé et de gendarmes mis en cause dans des violences contre un avocat et ses clients relaxés. Au Nigeria, au moins 15 personnes ont été tuées dans des attaques contre les villages du nord et du centre. Ici aux États-Unis, publication du rapport de l'inspecteur général sur l'enquête du FBI concernant le serveur privé de l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous et à toutes. C'est parti donc depuis hier pour 32 jours de foot. La 21e édition de la Coupe du Monde Russie 2018 a commencé. Le verdict de cet acte 21 sera connu le 15 juillet et on saura qui succédera à l'Allemagne, vainqueur du Brésil 2014. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour et l'Afrique fera son entrée en lice avec deux formations, l'Égypte et le Maroc. Le bal s'ouvre pour l'Égypte de Mohamed Salah dont le sélectionneur Hector Cooper dit être à 100% sûr qu'il jouera contre l'Uruguay à 12h temps universel pour le deuxième match du groupe A. À 15h, le Maroc entrera en compétition face à l'Iran avant le choc du groupe B, Portugal-Espagne à 18h. Mais déjà, en match d'ouverture hier, le pays hôte, la Russie, s'est imposée devant son public 5-0 face à l'Arabie Saoudite. Les Russes prennent donc la tête du groupe A en attendant le match Égypte-Uruguay. Dans la poule B, je le disais tantôt, le Maroc aura fort à faire avec la présence des Espagnols et des Portugais, mais pas de quoi entamer leur morale. C'est du moins le sentiment que de nombreux Marocains ont exprimé à Casablanca dans ce reportage de Sabina Hakim.
Au Maroc, on ne rigole pas avec le football. Même pendant le Ramadan, les terrains ne désemplissent pas et les joueurs amateurs s'entraînent dans la joie et la bonne humeur. Dans le quartier de Aïn Sber, à Casablanca, tous soutiennent avec ferveur les lions de la classe.
Qu'ils soient des hommes et qu'ils soient des lions sur le terrain. Il faut qu'ils jouent pour les couleurs du Maroc. C'est tout ce qu'on attend d'eux. Et Inch'Allah, il y aura une victoire.
Toutes générations confondues attendent avec impatience de voir jouer leur équipe en Coupe du Monde.
On attend qu'ils fassent des bons matchs à la Coupe du Monde et de bons résultats contre l'Iran et qu'ils atteignent la finale, Inch'Allah. Nous avons une bonne équipe cette année. On aimerait qu'ils jouent avec un bon esprit. On espère qu'ils passent au moins le deuxième tour. On aimerait que l'équipe nationale porte le drapeau du pays. Ça fait longtemps qu'on attend de les voir jouer en Coupe du Monde. On attend une équipe qui se donne à fond sur le terrain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bon jeu sur le terrain. On espère aussi les voir bien représenter le Maroc en Russie.
Les Marocains espèrent voir les Lions de l'Atlas faire un beau parcours dans cette Coupe du Monde et ils y croient.
Bonne chance donc aux Lions de l'Atlas et aux autres équipes africaines. Et à vous, on se dit au revoir sur le coup de sifflet de notre consultant Jules Valentin Ngwe depuis Libreville au Gabon.
Bonjour. Tous les regards sont tournés vers la Russie où commence la 21e Coupe du Monde de football de l'histoire. 21 ans, comme l'âge de la maturité, pour cet incomparable rendez-vous sportif dont on attend qu'il relève de nombreux défis cette année. Déjà, la polémique qui a accompagné le choix du lieu d'organisation, les ondes de choc de l'épisode du dopage d'État russe et les récentes tensions diplomatiques d'origine diverse ont un moment laissé planer le doute sur le démarrage normal de l'événement. Heureusement, la mécanique habituelle s'est mise en marche. Il aurait été frustrant de remettre en cause l'organisation du tournoi mondial chez l'une des trois grandes nations de football à ne pas l'avoir abrité jusque-là, à côté du Portugal et des Pays-Bas. La FIFA n'a-t-elle pas confirmé son universalité en adoptant le slogan « Le football et le monde ». Par ailleurs, nul ne doute que, comme à Sochi, les défis de l'organisation, de la technique et de la participation populaire ne soient gagnés. Tout comme celui de la sécurité, même si le risque zéro n'existe pas. La véritable inconnue concerne l'aspect sportif des événements. Pour que la fête soit belle, l'équipe du pays hôte se doit d'accomplir un parcours honorable, ce que la qualité de la sélection russe actuelle ne fait pas espérer, à moins qu'un sursaut ne l'amène à accomplir un exploit comme la Suède de 1958 ou la Corée du Sud de 2002. Pour cela, croisons les doigts. À bientôt.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et maintenant, le reste de l'actualité en compagnie d'Anne Albertson.
En République démocratique du Congo, le comité laïque de coordination, organisation de l'Église catholique à la base des dernières manifestations anti-Kabila, revient à la charge. Dans un communiqué intitulé « L'heure de vérité a sonné », il lance un ultimatum à Joseph Kabila, à son gouvernement et à la Commission électorale nationale indépendante. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
D'ici au 31 décembre 2018, le comité laïque de coordination attend du président Kabila qu'il lève tout équivoque sur son probable troisième mandat, annonce cette structure de l'Église catholique dans un document intitulé « L'heure de vérité a sonné ». Au gouvernement, le CLC demande de présenter un plan de décaissement pour rassurer l'opinion quant au financement des élections et d'appliquer toutes les mesures de décrispation édictées par l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment la libération des prisonniers politiques, le retour des personnalités forcé à l'exil et l'abandon des poursuites judiciaires fantaisistes contre les opposants politiques et les acteurs de la société civile. À la Commission électorale nationale indépendante, les laïcs catholiques demandent d'appliquer les recommandations de l'audit de l'Organisation internationale de la francophonie, d'abandonner les projets d'utilisation de la machine à voter pour les scrutins du 23 décembre courant et de faire preuve d'impartialité dans le traitement des dossiers électoraux. À défaut pour ces institutions d'atteindre ces objectifs, chacune devra en tirer toutes les conséquences qui s'imposent et le CLC assumera ses responsabilités, prévient le comité dans le communiqué qui souligne qu'au-delà du 30 juin, le peuple congolais, toujours vigilant et mobilisé, sera dans l'obligation de se prendre courageusement et durablement en charge sur toute l'étendue de la République. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Nous reviendrons en seconde partie sur une interview avec Corneille Nanga, qui est le président de la Commission électorale nationale indépendante, en visite ici à Washington. Au Tchad, un gouverneur limogé et des gendarmes d'une région du Sud ont été interpellés hier à la suite d'accusations de violence contre un avocat, Doumra Manassé, et ses clients relaxés. C'est ce qu'a annoncé à l'AFP le ministre tchadien de la Justice, Djimet Diarabi. Cette affaire avait entraîné un mouvement de grève des magistrats, avocats, notaires et huissiers de justice qui réclamaient le limogeage du gouverneur ainsi que celui des autorités militaires et civiles impliquées dans ces violences.
Toujours au Tchad, une commerçante chinoise a été abattue hier soir au moment où elle rentrait chez elle à N'Djamena, a appris l'AFP auprès d'un porte-parole de la police. Le motif exact n'a pas été précisé par le porte-parole qui a cependant indiqué que le véhicule de la commerçante avait été emporté par les assassins.
Au Nigeria, au moins 15 personnes ont été tuées dans des attaques contre des villages du nord et du centre, en proie à la violence de bandes armées. Le point avec Raissa Gironda.
Dans l'état de Benoué, dans le centre du Nigeria, 4 personnes dont 2 frères ont été tuées mardi et une cinquième le lendemain, selon un responsable local, Richard Niadjo, qui a accusé des éleveurs. Mercredi, de présumés voleurs de bétail ont attaqué 4 villages dans l'état de Zamfara en représailles au meurtre d'un des leurs par des milices locales. Selon le porte-parole de la police, Mohamed Cherou, 10 personnes ont été tuées. Une organisation américaine Armed Conflict Location and Event Data Project accuse les éleveurs peuls d'être responsables de la mort de quelques 1000 personnes cette année. Des hommes politiques ont accusé le président Muhammadu Buhari, lui-même un peul musulman, d'avoir tardé à condamner les violences.
Les forces américaines opérant en coordination avec le gouvernement libyen ont mené cette semaine une frappe aérienne contre un groupe lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, au sud-est de Beni Walid, tuant un terroriste. Selon un communiqué d'Africom, les États-Unis continuent d'évaluer le résultat de cette frappe qui visait à perturber les opérations d'ACMI et à empêcher ses combattants d'agir.
Au Soudan, des agents du service de sécurité soudanais ont saisi cette semaine des tirages entiers de trois quotidiens, a annoncé hier Reporters sans frontières qui dénonce une nouvelle tentative pour bâillonner la presse au Soudan. Des journalistes qui avaient couvert des questions dites sensibles ont été également interrogés par les mêmes agents. L'un des quotidiens, Al-Tayar, a récemment publié un article disant qu'une démission du président Omar al-Bashir pourrait contribuer à relancer l'économie du Soudan, actuellement en crise.
Au Zimbabwe, une vingtaine de candidatures à l'élection présidentielle du 30 juillet ont été acceptées, dont celle de l'actuel chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, et de son rival de l'opposition, Nelson Chamisa. Les prétendants aux scrutins présidentiels, législatifs et municipaux seront les premiers depuis la démission de l'ex-président Robert Mugabe. Des détails avec Raissa Girondin.
Pour être officiellement enregistré, chaque candidat devra débourser 1 000 dollars et être parrainé au moins par 100 électeurs enregistrés sur les listes électorales et issus des 10 provinces du pays. D'autres demandes sont en cours d'étude et les résultats seront annoncés ultérieurement. Les élections générales du 30 juillet seront les premières depuis la démission de Robert Mugabe en novembre. Son successeur Emmerson Mnangagwa devrait, sauf surprise, remporter la présidentielle face à une opposition divisée et orpheline après la mort en février de Morgan Tsvangirai, le chef historique de l'opposition.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, selon un rapport officiel de l'inspecteur général du ministère de la Justice, l'ancien chef du FBI, James Comey, s'est affranchi des règles en supervisant l'enquête sur Hillary Clinton avant la présidentielle de 2016, mais il a exclu de poursuivre la candidate démocrate de façon impartiale. Les détails avec Irénée Herman-Ungo.
Nous n'avons trouvé aucune preuve montrant que les décisions des procureurs ont été influencées par des partis pris ou d'autres considérations, indique le rapport qui révèle par ailleurs que l'ancien chef du FBI, James Comey, s'est montré insubordonné. Le document susceptible d'être une bombe politique risque de ne pas avoir l'effet escompté par le président Trump, qui ne cesse d'affirmer que les démocrates se sont alliés avec des éléments du FBI pour aider Mme Clinton dans la course à la Maison-Blanche. James Comey est épinglé dans ce rapport pour avoir pris des libertés avec les procédures en vigueur à la tête de la police fédérale américaine. Deux agents du FBI travaillant sous ses ordres ont, selon l'inspecteur général du ministère de la Justice, montré une volonté d'agir officiellement pour effacer les chances de M. Trump. Dans une conférence de presse surprise en juillet 2016, M. Comey avait recommandé de ne pas poursuivre Hillary Clinton sur ses emails envoyés avec un serveur privé, tout en notant que l'ex-secrétaire d'État avait fait preuve d'une extrême négligence. À 10 jours du scrutin présidentiel, il a relancé de façon réticente l'affaire des emails en rouvrant l'enquête sur Mme Clinton.
Toujours aux États-Unis, pendant que se tiennent des manifestations à travers le pays contre une politique séparant les enfants de leurs parents appréhendés à la frontière sud, les républicains de la Chambre des représentants rédigent une proposition de loi sur l'immigration qui devrait mettre fin à cette pratique. Entre-temps, le gouvernement fédéral envisage de rouvrir une cité de toile pour héberger ses enfants. Cette proposition du président de la Chambre, Paul Ryan, précise que tout enfant qui traverse la frontière avec ses parents ne peut être remis qu'à ses parents, même si cela signifie mettre la famille dans un centre de détention.
États-Unis encore, la procureure de l'État de New York, la démocrate Barbara Underwood, a déposé une plainte visant à dissoudre la fondation humanitaire du président américain Donald Trump. Elle l'accuse de conduite illégale persistante pendant plus d'une décennie au profit de ses entreprises à des fins personnelles et aussi politiques, spécifiquement la coordination de certains décaissements avec la campagne électorale du candidat Trump en 2016. Les enfants du président Donald Trump Jr., Eric et Ivanka, sont des co-accusés dans cette affaire. Dans un tweet, M. Trump a qualifié de ridicule ce procès et écarté d'emblée un éventuel règlement à l'amiable.
Au Yémen, de violents combats ont fait hier 39 morts parmi les rebelles houthis et les forces pro-gouvernementales aux portes de Hodeïda dans l'ouest, au deuxième jour de l'offensive qui vise cette importante ville portuaire et fait craindre une interruption de l'aide humanitaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé que le port de la ville, par où transite l'essentiel des marchandises importées, reste ouvert pour éviter l'aggravation d'une crise humanitaire déjà considérée comme la pire au monde. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le compte à rebours a commencé pour les élections du 23 novembre prochain. Plus qu'une semaine et l'électorat va être convoqué. Le dépôt des candidatures devra s'ouvrir le 24 juin pour les locales et le 25 juillet pour la députation et la présidentielle. Ces dates seront-elles respectées? La question a été posée par Eddy Sango au président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga, qu'il a reçu dans nos studios ici à Washington.
La convocation intervient le 23 et ça coïncide avec le début des dépôts de candidature pour l'élection des députés provinciaux et à partir du 25 juillet, candidature pour l'élection des députés nationaux et la présidentielle. Nous sommes prêts. On n'aurait pas été prêts qu'on n'allait pas le faire parce que sur le calendrier a prévu cela et nous nous préparons pour ce faire. Dans 10 jours, on convoque l'électorat, effectivement.
Qu'en est-il de financement? Est-ce que vous avez tout le moyen? Le gouvernement vous a tout donné?
Ce qu'il faut dire est que nous avons, depuis la publication du calendrier électoral, exécuté toutes les activités prévues pour se faire. Ce faisant, si on réalise les activités, c'est qu'il y a eu du financement. Tous ces financements ont été faits par les gouvernements et nous espérons que ça va continuer ainsi pour avoir les élections comme prévu le 23.
Vous avez entamé la formation des agents électoraux sur la machine à voter, contestée par une bonne partie de la classe politique et même la classe sociale congolaise, mais aussi à l'extérieur. Comment comptez-vous organiser les élections qui soient acceptées par un grand nombre de Congolais dans ce contexte?
Non, ce n'est pas contesté par une grande partie de l'opposition. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'un tel leader ou tel autre ait un point de vue sur ceci ou cela qu'on dise que c'est contesté par une bonne partie. Et puis, quand on dit que c'est contesté par la communauté internationale, c'est une élection des Congolais. Et ce sont les Congolais qui vont voter. Je ne sais pas pourquoi la communauté internationale s'invite dans ces débats. Ce faisant, on n'a pas lancé la formation, on a plutôt lancé le programme national de sensibilisation des électeurs, parce que nous devons leur apprendre comment ils vont voter. Et ce programme a commencé depuis le mois de février dernier. Il va se poursuivre jusqu'à la veille de l'élection. Objectif, c'est que jusqu'au 22 décembre, tous les électeurs aient au moins expérimenté comment ils vont voter. Encore que pour le faire, il faut peut-être revenir sur la machine en question. Beaucoup de choses se disent autour de la machine. Et tout ce qui se dit généralement n'a rien à voir avec la réalité. La machine à voter, c'est juste une imprimante qui nous permet, en fait, d'imprimer son bulletin de vote le jour de vote dans les bureaux de vote avant de les glisser dans l'urne. À la République démocratique du Congo, on n'est pas encore en mesure d'organiser un vote électronique. Et ceux qui discutent donc sur le vote électronique, ça n'a rien à voir avec la réalité. En février, nous l'avons prévenu. Vous ne voulez pas de machine à voter, donc vous ne voulez pas des élections en décembre. Et oui, il y aura élection, bien entendu, mais pas en décembre. Mais tout le monde, les Congolais, a besoin de voir les élections le 23 et nous travaillons pour ça.
Ceux qui s'opposent à vous contestent et disent que la machine à voter n'était pas dans les calendriers. Donc, c'était le bulletin, l'impression de bulletin et autres. Donc, la machine à voter ne devrait pas retarder les élections.
On parle des choses dont on n'a pas la maîtrise. Où est-ce qu'on a écrit dans les calendriers qu'on va utiliser les stylos? Est-ce que dans les calendriers, vous trouverez là où on utilise les calculatrices? Non, ce n'est pas ça le débat. Qui laisse ceux qui sont experts en la matière de faire ce qui les concerne. La machine n'est qu'un détail parmi tant d'autres matériaux qui sont utilisés dans un bureau de vote. Sans cette machine, nous aurons à imprimer les bulletins. Et le début de l'impression des bulletins commence à partir du moment où on a la liste définitive des candidats donnée par les différentes cours. Ça met donc en position d'imprimer des milliers de tonnes à l'étranger et les transporter, ce qui nous amène à un délai qui va au-delà de 2018. Qui est prêt à assumer cela par la CENI?
Les processus sont simples, comme vous le dites, mais pour ceux qui sont dans les grandes villes. Et qu'en sera-t-il des vieilles dames dans les villages reculés qui n'ont jamais touché à un ordinateur?
Comment ils n'ont jamais touché? Depuis 2006, nous enrôlons les électeurs avec des ordinateurs. Tous ces mamans viennent prendre les empreintes, ils ont touché à l'ordinateur.
La francophonie dit dans son rapport sur l'audit du fichier électoral que le fichier est perfectible. La société civile, l'opposition et d'autres partis à l'élection insistent que les 16 millions d'électeurs sans empreinte digitale doivent être élagués. Comment allez-vous régler ces problèmes?
Ce n'est pas 16 millions d'électeurs, c'est 16% d'électeurs.
16% plutôt.
La francophonie dit plutôt que c'est perfectible, mais avant de dire qu'il est parfait, il dit d'abord que c'est un fichier inclusif, exhaustif, et actualisée. La perfection va se faire en exécutant les calendriers. Nous allons afficher les listes électorales partout. Il est demandé à tous les électeurs, chacun, de venir vérifier et faire des réclamations éventuelles. C'est la loi qui nous les dit. Une fois les réclamations faites, nous prendrons donc ces réclamations, nous les allons les intégrer avant d'imprimer les listes définitives.
C'était le président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, Corneille Nangaa, reçu dans nos studios ici à Washington.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
RDC toujours tenu au Sud Kivu de la 4e édition de la Saveur du Kivu, un événement annuel de promotion du café dit de spécialité cultivé dans l'est du Congo. Y ont participé des producteurs congolais ainsi que des acheteurs et distributeurs nationaux et internationaux, nous dit notre correspondant Ernest Muero dans ce reportage.
C'est dans une grande foire d'exposition du café des spécialités, couplée des concours de dégustation de la meilleure qualité de ces cafés, que la ville de Bukavu a accueilli du 11 au 13 juin cette 4e édition de la Saveur du Kivu, une initiative de l'américain Chris Trotter avec le gouvernement congolais. La coopérative Kawa Kabuya de Butembo au Nord Kivu a remporté la première place de ces concours. Le directeur du secteur Sud Kivu de l'Office national du café, François Nzanzou, salue l'accompagnement voilà 6 ans de l'USAID dans l'amélioration de la culture du café au Sud Kivu.
La population accepte le projet de faire désormais café de spécialité. Les coopératives sont dotées des stations de lavage pour faire ce type de café. Et ces coopératives-là subissent des formations chaque année pour comprendre à fond comment est-ce qu'on fait le café de spécialité. Nous avons quand même des terres emblavées déjà en café culture. Nous avons au moins 5000 tonnes que nous produisons chaque année caféières dans la province. Avec l'événement Saveur du Kivu, nous allons assurer les débouchés de nos production de café.
Quelques habitants de Bukavu qu'on a rencontrés en pleine dégustation du café congolais des spécialités s'expriment.
Je suis venu visiter ici, on m'a donné un café ici, je vais goûter. Moi, je vais préférer parce qu'il y a un beau goût.
C'est très bon, très goûtable parce que je fais la différence entre ce qu'on achète au marché et ce qu'on a bu ici. C'est très bon.
C'est Saveur du Kivu, quoi. Je crois que c'est un café assez original qui provient des champs. Il y a l'arôme de notre province. C'est intéressant.
Cette ambiance festive était aussi un cadre de consolidation des partenariats entre le gouvernement congolais à travers l'organe de régulation qu'est l'Office national du café, les producteurs congolais du café des spécialités et les acheteurs et distributeurs nationaux et internationaux de ces cafés, reconnus pour sa qualité supérieure, selon Chris Trotter, directeur de Hyder Grounds Coffee. Chance Roissy est caféiculteur en territoire d'Idjui. Il évoque les améliorations dans son travail, mais souligne que les caféiculteurs congolais ont besoin des préfinancements du café, sinon les coûts de production engloutit les profits attendus.
Avant, on avait des intermédiaires, donc c'était difficile. On ne collaborait pas directement avec les acheteurs. Avant, on était en train de vendre le café à 0,6, 1 kilo par, mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 dollars. L'événement comme ça va être de Kivu ici, nous essayons de prendre des contacts pour arriver à vendre le café ou faire des contacts avec les banques pour les préfinancements.
Les directeurs du secteur Sud Kivu de l'Office national du café, François Nzanzou, annoncent d'ici janvier 2019 l'opérationnalité d'une usine de départage du café à Bukavu. Ernest Mouro pour VOA Afrique, Bukavu.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Un kiosque ordinateur visant à améliorer la qualité des services publics mais aussi privés sera bientôt sur le marché grâce à un jeune Guinéen. Doté d'un écran tactile et long de plus d'1,70 m, cet outil digital est équipé de logiciels capables de répondre dans différentes langues nationales. Notre envoyé spécial Abdourahmane Dia est allé à la rencontre de son inventeur, Muntaga Keita. Voici son reportage.
À 100%, pas de prêt bancaire ni rien.
Dans cet immeuble familial de 7 étages, se trame un projet révolutionnaire. Au rez-de-chaussée, quelques ouvriers et techniciens sont en pleine construction de ce terminal digital. Et derrière cette idée, Muntaga Keita, un jeune Guinéen formé à Harvard, est une des sensations du dernier Africa Tech de Kigali.
Eh bien, sa particularité, déjà, c'est dans sa conception. Alors, ce que nous faisons exactement, nous faisons un manufacture design en 3D de cet appareil et nous le concevons techniquement, physiquement, dans cet environnement. Nous le mettons sur le marché, mais aussi nous faisons tous les services, l'après-service, tout ce qui est lié à cet appareil.
Des compagnies aériennes aux commissions électorales, en passant par les banques, les cibles sont nombreuses. Ici, Muntaga Keita nous démontre comment les municipalités les plus reculées du continent peuvent y trouver leur compte.
Vous voyez, les élections, je me présente devant, ça me capture en photo, je mets mon numéro de carte électorale. Ça me sort tous les candidats. Par exemple, pour les municipalités, vous avez cette colonne avec les états civils, le e-government. Dès que je touche, par exemple, au bébé, ça m'envoie vers les actes de naissance. Exactement. Alors, ces actes de naissance, nous pouvons avoir soit une déclaration, soit une reconnaissance. La déclaration, vous avez là tous les thèmes. Et bien sûr, nous sommes progressivement en train d'attacher l'audio à tout cela. Et dans la langue nationale aussi, dans la langue de la personne. Nous avons le français, l'anglais. Le peu, le soussou, malinké, gervé, nous essayons de mettre le maximum de langues.
Muntaga Keita nous dit que la plupart des 35 développeurs, commerciaux, techniciens et personnels administratifs ont déjà été recrutés et devraient démarrer d'ici quelques semaines. Mais il connaît déjà les défis qui l'attendent.
Bien sûr, nous savons un groupe tel que le nôtre est encore petit par rapport aux grands groupes. Les grands groupes pourraient s'intéresser et venir essayer d'acquérir. Mais nous saurons aussi reprendre exactement. Nous avons toute une stratégie. La stratégie de collaboration est l'une des stratégies. Mais le rachat, non.
En attendant, on démarche les clients potentiels avant le grand démarrage de cette aventure dont l'idée a germé en 2014. Abdelrahman Dia, Conakry, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Enfin, ici aux États-Unis, les musulmans célèbrent ce vendredi la fin du mois de Ramadan, l'Aïd al-Fitr, qui met fin au jeûne observé pendant cette période par des millions de fidèles à travers le monde. Au Mali, où nous retrouvons notre correspondant à Gao, Boubacar Touré, c'est hier qu'a eu la fête, l'occasion pour demander à Dieu la paix et une élection présidentielle apaisée en juillet prochain.
Allah! C'est sous un soleil de plomb que les fidèles musulmans de Gao sont sortis massivement ce jeudi matin 14 juin 2018 pour fêter l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. L'occasion est donc bonne pour demander à Dieu la paix, la sécurité et surtout les élections présidentielles apaisées prévues pour juillet prochain. Au sortir de la prière, nous avons tendu notre micro à certains fidèles.
Sandy Lamine, aujourd'hui c'est une journée d'allégresse. Après un mois de jeûne, nous avons prié et demandé les vœux au bon Dieu de nous donner une année apaisée, que l'année soit une année de réussite, de bonheur pour tout le pays.
Ibrahim Moussa, je suis venu comme tous les fidèles et prier pour moi, prier pour ma famille, et prier pour mes amis et surtout vraiment prier pour ce pays, ce grand pays qui nous est très cher. D'abord qu'il y ait la paix, une paix dans tout le Mali, une paix dans tout le monde. Et nous savons également que d'ici quelques jours seront des élections. Prier encore plus pour que ces élections-là soient des élections apaisées.
Moussa Traoré du Copa. Ce que nous avons demandé à Dieu aujourd'hui, on est dans un pays en crise. On ne peut prier et demander au bon Dieu qu'il nous accorde prospérité, santé, paix et retrouver dans ce pays. Et ce pays en a besoin. On n'a pas le choix. Qu'on soit de l'opposition, de la majorité, on est d'abord des Maliens. Donc on a prié le bon Dieu qui nous accorde la paix, la sécurité.
Sir Mohamed Dina, bonne fête à tous les peuples, bon chat. Que Dieu nous donne la paix, Ya Rabbi. Que Dieu protège le Mali. Que Dieu nous donne des élections apaisées. Des élections que tout le monde va être d'accord avec ça. Que Dieu nous donne un bon président.
Il faut rappeler que les coupures d'électricité, le manque d'eau et la forte chaleur ont marqué le Ramadan 2018 dans la région de Gao. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.